La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. Une émission enregistrée au Burkina Faso, quelques jours avant le début de la crise et la fermeture des frontières. Nous sommes au début des années 80. Un jeune capitaine, idéaliste et pressé, prend le pouvoir de force en Haute-Volta, qu'il rebaptise Burkina Faso. Le pays des hommes intègres est alors en pleine crise de la dette. Les plans d'ajustement structurel accroissent la dépendance alimentaire et la pauvreté. Notre homme s'appelle Thomas Sankara et son nom est devenu une légende. Fougueux et terriblement lucide, il s'inscrit dans l'héritage panafricain de Nkrumah. Il est également inspiré par la guerre d'indépendance des Vietnamiens ou le combat de Che Guevara en Amérique latine. Thomas Sankara annonce une société nouvelle, débarrassée de l'injustice sociale et de la domination impérialiste. Et pour le jeune révolutionnaire, la libération de l'homme passe obligatoirement par la libération de la femme.
L'impérialisme domine le voltaïque. Et l'homme voltaïque va dominer la femme voltaïque. Eh bien, nous voulons responsabiliser la femme voltaïque, d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme voltaïque, cela ne va pas sans grand mal, parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer.
Président du CNR, le Conseil national de la Révolution, Thomas Sankara s'attaque à tout ce qu'il estime être un frein au développement. Radical et frontal, il s'appuie sur les théories marxistes si souvent discutées avec son ami d'enfance, Valère Sommet.
Le peuple voltaïque à l'époque subissait la domination de l'impérialisme, principalement français. Mais la femme subissait cette même exploitation. Mais en plus, la femme était ségrégée par l'homme. Enfin, presque une double oppression. Non seulement elle subissait la même oppression que les hommes, venant du système impérialiste, mais elle subissait aussi la domination venant du système traditionnel d'un pays africain avec nos valeurs. Donc doublement, la femme se sentait opprimée. Alors on ne pouvait pas donc lutter sans l'associer, puisque un peuple qui en opprime un autre ne serait se considéré comme libre. Donc une classe sociale ou une catégorie sociale qui opprime une autre classe, une autre catégorie, ne pas se sentir libre. Donc l'homme ne peut se libérer que si la femme aussi est libre.
Intellectuel et théoricien de la Révolution, Valère Sommet a très largement contribué à la rédaction du discours d'orientation politique, le DOP. C'est l'acte fondateur du projet de modernisation de la société voltaïque.
On ne peut pas faire la Révolution sans la femme, parce que nous comptions bâtir toute la politique dans l'implication des femmes. Parce qu'avant nous, aucun régime n'a tenu un discours officiel pour réhabiliter la femme, pour donner les moyens, créer les conditions pour que la femme puisse s'émanciper. Je crois que c'est le premier régime qui a mis l'accent beaucoup sur l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme ne veut pas dire que la femme doit adopter les mêmes attitudes, les mêmes comportements que l'homme. Fumer, boire, manger, sortir. Non. Et nous disons que l'émancipation de la femme, c'est pas l'acquisition simplement du diplôme. Avant, les femmes s'affirmaient simplement par leur diplôme. Nous, on disait que ce n'est pas ça la voie de l'émancipation. L'éducation des femmes, d'accord. L'instruction des femmes, d'accord, et la grande masse des paysannes, et la grande masse de jeunes filles qui ne vont pas à l'école, qui subissent les travers de notre tradition, toutes ces femmes-là ont besoin d'une éducation et d'une instruction. Et c'est pour ça que nous avons mis l'accent sur ça. Et surtout que des expériences africaines proches de nous, comme en Guinée en 1958, Sékou Touré a pu prendre le pouvoir, Sékou Touré a pu à un moment donné faire avancer un discours révolutionnaire en Guinée, mais son parti était porté par les femmes. Les femmes guinéennes, à l'époque, c'était un exemple comment la révolution guinéenne les a impliquées, et c'est elles qui faisaient la force du parti démocratique guinéen de Sékou Touré. Voilà donc notre souci.
Un souci partagé par notre grand témoin, Germaine Pitrouipa, tout comme Valère Sommet, avec lequel elle a milité à Paris au sein de l'UGEV, l'Union Générale des Étudiants Voltaïques. Elle aspire à un profond changement. Militante syndicale, elle participe à la conscientisation des étudiants puis des professeurs. Et quand Valère Sommet lui présente Thomas Sankara en 1982, Germaine ne peut s'empêcher de mettre en garde Thomas contre l'usage arbitraire de la violence par les militaires.
Thomas Sankara et Germaine se sont rencontrés chez moi. Je crois que cette première rencontre a été un choc entre les deux. vu le tempérament de Germaine, un choc de point de vue contraire, opposé. Opposé parce que, bon, Germaine, avec ses préjugés contre les militaires, dans la mesure où je l'ai présenté, voilà mon ami, le lieutenant Thomas Sankara, bon, elle est partie directement dans l'attaque contre les militaires qui se croient supérieurs aux civils. Et c'est par la suite que j'ai calmé le jeu en montrant que c'est une incompréhension, mais en fait, elle n'est pas si mauvaise que ça. Et dire à Germaine aussi que Thomas Sankara, c'était un révolutionnaire. Donc, je pense qu'ils vont s'entendre.
Connu pour son tempérament de feu, Germaine Pitruipa ne sait pas encore qu'elle va entrer dans l'histoire aux côtés de Thomas Sankara lorsqu'il réunit les femmes à la Maison du Peuple de Ouagadougou le 15 juillet 1984.
Alors, la Maison du Peuple que nous voyons, c'est devenu un lieu de spectacle, un lieu de rendez-vous, parce que c'est le centre même de la ville de Ouagadougou. Et la Maison du Peuple, c'est vraiment un lieu qui me rappelle beaucoup de souvenirs, aussi bien de jeunesse que de ma participation à la Révolution.
La chute de Blaise Compaoré permet à Germaine Pitruipa de rentrer officiellement dans son pays, le Burkina Faso. Alors candidate à la députation de l'UNIRPS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, Germaine Pitruipa revit sa révolution Sankara.
J'arrive ici de façon impromptue, puisque je venais d'arriver de Paris et de l'aéroport à Dapoya, dans le taxi qui m'amenait. On me dit qu'aujourd'hui, le président Thomas Sankara rencontre les femmes pour parler de l'émancipation de la femme sous la Révolution. Et j'ai saisi l'occasion, et comme c'était quelqu'un qu'on voulait voir absolument, surtout la jeunesse, la cour était bondée, à l'intérieur il n'y avait plus de place évidemment. J'ai retrouvé Sankara tel que je l'ai découvert lors de sa visite à Vittel, aussi simplement assis à une table, comme un écolier, attendant qu'on lui dise de parler aux femmes. Et puis bon, je vois mes camarades qui sont assis dans les travées, et bon, je vais à côté d'eux. Et bien sûr, sur la tribune, il y avait une partie du Conseil national de la Révolution, il y avait Lengani, il y avait Zongo, il y avait Blaise Compaoré, et puis bon, tous ses gardes-corps, Pierre Ouédraogo, enfin bref, tous ceux qui l'accompagnaient dans cette entreprise, bon, en tout cas au niveau militaire.
Les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes, la patrouille, la mort.
Les femmes sont là pour voir Sankara et c'est une première, retransmise en direct par la Radio Nationale, dont Roger Nikiema est alors le directeur. Il est d'ailleurs surpris par cet enthousiasme féminin, car depuis le coup d'État, il a observé de la réserve ou de la peur chez certaines femmes. En effet, la rumeur qualifie le régime de communiste, mais indiscutablement, les femmes sont séduites par la personnalité de Thomas Sankara.
Sankara était un homme qui ne passait pas inaperçu, surtout auprès de la gente féminine. Tout le monde voulait le toucher et vraiment on applaudissait. Il y avait toutes les couleurs et toutes les odeurs, les parfums et tout ça. La Maison du Peuple était vraiment animée.
Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie.
Il avait cette manière de parler souvent sans papier. Et cette attitude plaisait et il parlait, il avait un vocabulaire qui convenait aux femmes. Il n'allait pas chercher un discours universitaire, mais il était à leur portée et tout ce qu'il disait allait droit au cœur, comme on dit. Ça incitait les femmes à manifester leurs sentiments, leur joie et puis même leur détermination de participer à son combat.
Sankara, lors de ce discours, il a parlé de qu'est-ce qu'il entendait par émancipation de la femme qui doit participer à la révolution. 51% de la population, c'est les femmes. Notre révolution étant démocratique, s'il n'y a pas la moitié du Burkina, eh bien, la démocratie n'a pas sa raison de figurer dans le sigle révolution démocratique et populaire. La femme doit participer pleinement. Là-dessus, je suis d'accord effectivement avec son discours. Et quand il évoque les contraintes qui font que peut-être la femme doit se libérer doublement, à savoir se libérer du mari, se libérer des contraintes socio-culturelles et en même temps de se libérer de cet esprit de dépendance. Les femmes, elles courent vers les pine wax, elles obligent les maris à des dépenses onéreuses, alors que les pines qui sont faites au Burkina sont moins chères. Mais j'interviens pour dire que je ne suis pas d'accord avec le propos de Thomas Sankara. Certainement que c'est moins cher, mais c'est parce que c'est peut-être moins beau que les femmes que nous sommes, et que cet habillement-là ne doit pas handicaper en rien notre engagement pour la réussite de la révolution.
Oui, on peut être révolutionnaire et élégante. Non, on ne trahit pas la révolution en se maquillant. Pour avoir contredit Sankara, Germaine Pitroipa fera la une des journaux au Burkina. Mais au-delà de la question de la coquetterie, c'est celle de la création des garderies qui lui tient à cœur.
Et dans son intervention, Thomas Sankara a demandé à ce que les associations, des individus puissent créer des garderies populaires. Ça permettra un début de la libération de la femme, si elle sait qu'elle peut, de façon consciente et de façon confiante, confier ses enfants à une garderie populaire. J'ai répondu à Thomas en disant non, cette partie du discours-là ne me convient pas en tant que révolutionnaire. C'est au CNR de prendre en charge justement les garderies populaires, de donner l'orientation qu'on voulait avoir, parce que les associations, pour nous, elles n'auront que l'aspect mercantile, de la rentabilité, alors que dans ces garderies populaires, nous devons éduquer, nous devons donner déjà le début de ce que sera un enfant né sous la révolution. Voilà cet aspect-là. Bon, ça n'a pas intéressé les journalistes, mais lui, ça l'a intéressé dans la mesure où j'ai dû l'interpeller parce qu'il était en train de discuter un peu avec Blaise Compaoré et Lengani qui étaient assis autour de lui. Et je lui ai dit, camarade président, j'estime que vous devez écouter cette partie de mon intervention parce que c'est celle-là que moi considère comme révolutionnaire et beaucoup plus importante que l'anecdote entre griffes sur le maquillage et sur l'aspect vestimentaire.
Moi, je n'étais pas présent ce jour-là, mais j'écoutais ça à la radio. Et quand le président Thomas Sankara a fini de parler, j'ai même abondi sur le micro pour prendre le contre-pied de son discours. Ça, c'est du jamais vu. Des gens qui n'osent même pas. On voit une femme qui surgit du néant et qui prend à contre-pied vertement le président. Et alors, à la fin du meeting, Thomas Sankara qui vient chez moi. Mais quelle est cette fille-là qui... Je dis, non, c'est une camarade. Ne t'en fais pas, vous allez vous entendre. Et c'est comme ça, j'ai donné rendez-vous, puis je les ai assis. Ils se sont expliqués, puis depuis ce jour, le courant est passé, et puis ça marche. Ils sont devenus des camarades.
Quel épisode!
Ah oui, parce que c'est suite à cette contradiction que j'ai même réussi le nom, la CDR de Paris. La CDR de Paris, parce que ça éblouit tout le monde. Et pour dire ça, c'est une femme courageuse, mais d'où elle vient? Non, c'est la CDR de Paris, c'est la CDR de Paris. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens continuent de l'appeler la CDR de Paris.
Valère Sommet rassure Thomas Sankara sur le passé militant, l'intégrité et le courage de sa camarade Germaine Pitroipa.
En fait, ce qui étonnait, c'est que, soi-disant, j'ai eu le courage de dire ce que peut-être d'autres pensaient, mais qui n'osaient pas le dire. Parce qu'ils avaient répandu l'idée comme quoi, quand le président parle, il ne faut pas le contredire. C'était la preuve flagrante qu'on peut le contredire sans pour autant être contre la révolution, bien au contraire. Et donc, les journalistes et puis les médias ont considéré ça comme une entrée fracassante et tout. Mais ça correspond à mon tempérament, en fait. Parce que je considère que le débat révolutionnaire doit concerner tous les révolutionnaires. Et Thomas, l'ayant connu autrement qu'à la maison du peuple, je sais que c'est un homme de débat, un homme qui aime mener les débats, il aime convaincre. Et pour le convaincre du contraire de ce qu'il pense, il faut avoir des arguments. Et j'ai utilisé les arguments que j'avais.
Bien que surpris, Thomas Sankara a apprécié l'audace de Germaine Pitroipa. Elle lui apparaît comme une égérie de la révolution, selon Roger Nikema.
L'événement de Germaine Pitroipa a surpris et a attiré l'attention de la révolution et notamment celle du capitaine Sankara, qui voulait vraiment des femmes battantes pour mener le combat que lui, il avait engagé. Et ce qui étonnait Et ce qui frappait les femmes, c'est que Germaine Pitrapa est une femme toute menue. Elle est toute petite. Et c'est étonnant que cette petite femme puisse s'adresser vivement, avec tant de vigueur, à Sankara et l'interpelle pour qu'elle libère les femmes, qu'elle marche avec les femmes. Je crois qu'elle a répondu, je dirais, 100% à l'appel de Sankara. Et Germaine était devenue l'élue nationale, et c'est pas pour rien qu'elle a été nommée par la suite comme haut-commissaire dans la région où j'étais comme correspondant de presse.
Après mon intervention, bien sûr, à la Maison du Peuple, j'ai été reçu deux fois par le camarade président Thomas Sankara, qui m'a dit, bon, j'ai besoin de femmes à des postes assez importants. Et je pense que si tu es d'accord, parce que, bon, il me tutoyait, et si tu es d'accord, bon, tu pourras faire partie des femmes à qui je souhaite confier des responsabilités. Mais sans me dire quelles responsabilités. Il n'a pas précisé si c'était le haut-commissariat, si c'était le ministère. Et d'emblée, moi, je fais savoir que, bon, c'est certainement pas le moment de me nommer ministre. Il a dit, j'ai besoin des femmes aussi pour ministre. Et moi, je lui ai cité des noms, entre autres, Ouédraogo Adèle, qui sont des femmes qui sont capables justement d'occuper des postes de ministre. Mais je précise qu'il avait déjà pris des renseignements sur plusieurs femmes. Certainement sur Adèle, parce que je n'étais pas la seule à la connaître. Et comme elle est promotionnaire de l'école primaire, du lycée et de Dakar, certainement que d'autres camarades aussi avaient parlé d'elle quand le président s'est ouvert à eux pour demander que des femmes figurent dans son gouvernement, parce que c'est important pour lui.
Thomas Sankara veut marquer les esprits. Il s'apprête à renouveler son gouvernement en intégrant 5 femmes ministres, du jamais vu. Il a retenu le nom de l'économiste Adèle Ouédraogo.
Je dirais d'abord que ça a été peut-être une grande surprise pour moi. Personnellement, je l'ai ressenti comme une avancée pour notre pays, dans la mesure où j'ai toujours été une militante quand j'étais étudiante, une militante dans le mouvement estudiantin. Un mouvement estudiantin qui prône la libération, la progression de notre pays, le développement économique du pays. Donc, en tant que militante, quelque part, mon nom a dû être cité. Et mon profil d'économiste y a également joué. Et j'étais cadre dans une banque filiale de la BNP, à la BCA précisément. Donc, je crois, puisque je ne sais pas comment, je ne lui ai jamais posé la question, mais j'imagine que c'est autour de Sankara que mon nom a été cité. Et c'est là qu'il m'a fait appel et la proposition m'a été faite et je l'ai acceptée avec beaucoup d'enthousiasme.
Adèle Ouédraogo est nommée ministre du budget, tandis que Germaine Pitrouipa devient haut-commissaire du Kuritenga. Elle part à Kupela. 30 ans après, nous repartons avec elle sur les traces de sa révolution Sankara. Retrouvez-nous juste après le journal sur RFI.
Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite de votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. Une émission enregistrée au Burkina Faso, quelques jours avant le début de la crise et la fermeture des frontières.
Nous voulons responsabiliser la femme voltaïque d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme voltaïque, cela ne va pas sans grand mal, parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer.
L'homme ne peut se libérer que si la femme est libre. C'est la conviction personnelle de Thomas Sankara et c'est une priorité du CNR, le Conseil National de la Révolution. Il faut émanciper la femme burkinabé, déclare le camarade président à la radio le 2 octobre 1983 dans son discours d'orientation politique, le DOP. Le jeune capitaine qualifie alors la victoire de la Révolution et l'avènement du CNR comme la consécration et l'aboutissement incontestable des luttes du peuple voltaïque. Contre la domination et l'exploitation néocoloniale, contre l'assujettissement et pour l'indépendance, la liberté, la dignité et le progrès du peuple. Rédigé par Valère Sommet et corrigé par Thomas Sankara, ce programme est celui d'une révolution démocratique et populaire, inspirée par les théories marxistes tant discutées par les deux amis lorsqu'ils étaient étudiants.
Conformément à l'indication qui est contenue dans le DOP, on a dit qu'on doit associer les femmes à toutes les sphères de décision. Et je dois signaler que c'est sous Thomas Sankara qu'on a eu dans un gouvernement 5 femmes du coup. Même la France n'avait pas encore fait ça. Comparé à la France, c'est le Burkina Faso a été un modèle. Et quand on parlait d'une femme qui avait des capacités, Sankara cherchait à la connaître. A choisi entre une femme et un homme de même capacité, Sankara prenait une femme.
Les femmes portent la moitié du ciel, disait Mao Tse-Tung, et Thomas Sankara compte bien les rallier à sa cause. Dès 1984, il nomme 5 femmes ministres et 10 autres hauts commissaires, prêtes à se mettre à dos l'autre moitié du ciel, à savoir les pères, les fils et les maris. C'est alors qu'il convoque Germaine Pitroipa. Égérie de la Révolution, depuis qu'elle a défié Thomas Sankara à la Maison du Peuple, Germaine Pitroipa accepte sa nomination comme haut commissaire par Thomas Sankara. 27 ans après, Germaine Pitroipa revient sur les lieux mêmes du haut commissariat de Koupéla, chef-lieu du Kouritenga, la province du centre-est du Burkina Faso.
27 ans après, je rentre dans mon bureau, le bâtiment qui était considéré comme mon bureau, donc le haut commissariat. J'ignore si je pourrais retrouver mon bureau. Donc ça a changé, waouh! Mon Dieu, et vous dites que ça n'a pas changé. Mais si, ça a beaucoup changé la preuve. Un climatiseur, moi j'avais un ventilo. Je me souviens bien.
Quand j'arrive ici en 84, le Kouritenga venait d'être érigé en province. C'était la première fois qu'on nommait un haut commissaire, donc en l'occurrence moi. J'arrive ici à 33 ans. Et bon, je pense que la jeunesse, soi-disant entre griffes de mon âge, ne me faisait pas peur parce que ça correspondait à l'idéal pour lequel je me suis battu. Depuis le lycée, comme délégué de classe, l'université, comme trésorier de l'AEVO, l'association des étudiants voltaïques à l'époque, à l'université de Ouagadougou, en Paris, de 75 à 78, au sein de l'UGEV et de la FEANF. Et donc, étant issu de ce pays, trouver les bâtiments rudimentaires ne m'étonnait pas. Sinon, bon, on n'aurait pas fait la révolution.
C'est le nombre de départements. Voilà, et communes, les 9 communes. Chacun a son casier.
Il y avait Koupéla, Dialgaï, Kando, Yargo.
Pourquoi on a érigé Koupéla en province? C'est dû à l'attachement de Thomas Sankara à cette ville, qui est un carrefour routier qui mène à 3 frontières, le Togo, le Niger, éventuellement, et le Bénin. Et Koupéla aussi représente une culture différente. L'état d'esprit n'est pas le même qu'à Ouagadougou. C'était une ville qui méritait honnêtement d'être érigée en province parce qu'il y a un dynamisme commercial dans cette ville qu'on ne retrouve pas partout au Burkina.
27 ans après, comme j'étais interdit de séjour, c'est pour ça que vous me revoyez 27 ans après.
Interdit de séjour?
Ben, si j'avais pas de passeport burkina, ben, comment je fais pour rentrer? Comme j'étais interdit de séjour au Burkina, je faisais le tour de l'Europe pour défendre la révolution. Voilà.
En rupture avec l'ère coloniale, le Conseil national de la Révolution restructure le territoire et l'administration, lutte contre la corruption, réorganisation agricole et foncière, et pour convaincre les 8 millions de Burkinabés, Sankara sillonne le pays. Avant d'ériger le Kuritenga en province, il a d'ailleurs déplacé son Conseil des ministres à Kupela, un événement couvert par celui qui va devenir le directeur et la grande voix de la Radio Nationale, Roger Nikiema, réquisitionné par le capitaine Sankara.
Sankara avait cette particularité, il allait partout et à toutes les rencontres en tenue militaire. Ça incommodait beaucoup. Et cette tenue militaire, il l'ornait avec son pistolet automatique. Et ça, c'était du vrai Sankara.
Sankara a le sens de la communication. Il s'invite dans une cour de Kupela où il reçoit ses ministres et ses invités dans un palais présidentiel improvisé.
Les visites se font à Kupela et c'était la queue. Le palais de la présidence, c'était une tente bleu clair d'une personne ou de deux au maximum. Mais si vous entrez, il y a des chaises et puis une table et il y a quelqu'un qui est derrière la table, c'est le président et les grands invités viennent. Ils n'ont pas de fauteuil, hein. C'est des chaises simples et tout en bois. C'est sur ces chaises-là qu'ils s'asseyaient et discutaient avec Sankara. Et vous avez certains qui ressortent tout en sueur, hein, parce que il n'y avait pas de climatiseur sous la tente. Et on les interviewait, ils étaient surpris. D'abord, Sankara, c'est quelqu'un qui est très poli, il connaît son sujet. C'était étonnant d'ailleurs. Il attrapait la politique comme l'économie, comme la philosophie. Il était partout apte à discuter pendant longtemps et les gens étaient contents.
Roger Nikiema envoie ses reportages à la Radio Nationale sur des cassettes. Il constate que le président va au contact des paysans.
Sankara, il s'adressait aux populations locales de manière personnel, camarade, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, et c'est là. Bon, moi, je me rappelle qu'on a mangé ensemble et tout le monde a été étonné parce qu'il a dit, bon, pour ma présence, hein, je vous préviens, pas d'alcool, hein, y a pas d'alcool, et puis on va manger les mets locaux, on mange burkinabé. Et il a mangé du haricot, il a mangé des petits pois, il a mangé le taux local avec tout le monde. Il était très simple. Je crois que c'est sa personnalité même qui était pratiquement ses idées. Et comme les gens s'intéressaient à sa personnalité, il s'imposait peut-être par le regard ou par son port, et ça passait.
Et c'est au cours de ce conseil de ministres que les habitants de Kupela ont dit au président que Kupela méritait d'être érigé en province. Il était attaché à Kupela.
En effet, le président du Conseil national de la Révolution entretient des liens très personnels avec la ville de Kupela, puisque c'est à Kupela que le jeune sous-lieutenant retrouvait sa fiancée, Mariam, qui deviendra son épouse. En voisin, Seydou se souvient d'un jeune militaire de Pau, discret et poli, plongé dans les ouvrages de Lénine et de Mao. Il se souvient aussi de la participation de Thomas Sankara au gouvernement du colonel Saï Zerbo.
Étant à Kupela, moi, je suivais quand même la radio. Et à chaque fois qu'il y a un acte posé par Thomas, ben, ça nous intéressait beaucoup parce que moi, je le connaissais déjà. Et quand il a dit malheur à ceux qui baillonnent leur peuple à la radio, la phrase m'a beaucoup touché parce qu'elle m'a donné à réfléchir. Et c'est cette phrase qui a déclenché tout. Parce que ce sont des phrases qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Quand quelqu'un déjà s'intéresse au peuple, ça veut dire qu'il se tourne maintenant vers 98% de délaissés. C'est ça qui m'a marqué.
La fameuse phrase « Malheur à ceux qui baillonnent le peuple » a été prononcée par Thomas Sankara le 21 avril 1982. Alors secrétaire d'État à l'information, il claque la porte du gouvernement. Sa renommée grandit, mais son heure n'est pas encore venue. C'est avec les commandos militaires de Pau, commandés par son ami Blaise Compaoré, qu'il accède au pouvoir le 4 août 1983. C'est le troisième coup d'État en 3 ans, en Haute-Volta.
Dès que Thomas Sankara a pris le pouvoir, la première des choses, c'est de lancer un appel à tout le peuple de Haute-Volta, en particulier la jeunesse. Instinctivement, Nous sommes retrouvés à Koupéla au niveau de la préfecture. Mais je souligne que c'est le chef de Koupéla en son temps, le Naba Sapilema, qui nous a invités. C'est lui qui a été le premier à nous inviter, à nous retrouver à la préfecture pour qu'on sache sur quel pied aller. C'est le Naba Sapilema qui nous a réunis et on a formé le bureau CDR devant lui. Et immédiatement après, Thomas a nommé Germaine Pitrapa au commissaire de Kuritenga. On ne s'attendait pas à voir une demoiselle frêle. Et quand elle est arrivée, elle a pris le temps de prendre contact d'abord avec nous. Ben, j'ai attiré son attention sur le fait que c'est le chef qui nous a réunis en premier.
Mon arrivée ici était en même temps un défi. Un défi à relever pour une nouvelle province où il n'y avait pas de référence. Tout était à construire et à réaliser. D'une part, et d'autre part, c'était un défi au chef Moussi, qui s'appelle le Sapilema à Koupéla, qui représentait un personnage caractéristique autoritaire du Moussi. Et un chef dont la réputation n'était plus à faire, surtout son comportement vis-à-vis des femmes. Le Sapilema étant un des chefs coutumiers les plus féodaux que j'ai connus personnellement. Et c'était un défi à relever et ce défi, je pense que la confiance que Thomas avait placée en moi, c'était que j'étais capable de relever ce défi.
Pour libérer les mentalités, il faut oser s'attaquer aussi à certains aspects de notre culture qui aliènent la femme.
La première rencontre avec le Sapilema, c'est justement ma prise de fonction où j'ai dit et j'ai répété que la révolution n'était pas contre la chefferie traditionnelle en tant qu'institution. La révolution était contre des comportements qui étaient engendrés par justement cette chefferie traditionnelle qui ne permettait pas aux paysans de se développer, d'être autonomes. Ils empêchaient l'épanouissement des paysans. Ils laissaient leur champ, ils venaient cultiver le champ du chef et après ils consacrent leur énergie à leur propre champ. Nous avons trouvé ça inique. Bon, et ensuite, ils se comportaient comme chef de terre. C'est-à-dire c'est le chef coutumier qui octroyait la terre ou le champ à un tel qui pouvait cultiver là-dessus. Du jour au lendemain, il pouvait lui retirer le bénéfice d'exploiter, etc., etc. Et nous avons considéré qu'il fallait faire une réforme agraire et que la terre appartienne à celui qui la travaille et non pas celui qui est le propriétaire. Et cet état d'esprit, il fallait que la révolution mette fin à ça. Sinon, en tant qu'institution, la révolution ne s'en prenait pas à la chefferie traditionnelle, s'en prenait au chef coutumier. Parce que dans ce pays, la chefferie a constitué une tête de pont pour permettre à la colonisation de s'installer sans pour autant apporter le bonheur au peuple voltaïque. Et c'est leur comportement qui nous a indignés, nous qui nous considérons comme révolutionnaires.
Moi, je pense que c'était pour défier Germaine que le président Thomas Sankara l'a envoyé à Koupéla parce que le chef était dur. Et le président connaissait le chef. Il entendait parler beaucoup de lui, il savait que le chef était un dur. Il pensait que, comme elle a intervenu de manière énergique à la maison du peuple, on allait peut-être la refroidir en l'envoyant à Koupéla, mais on lui a donné des ailes.
Malgré les résistances que la révolution provoque dans une société burkinabée souvent analphabète, pauvre et rurale, les réformes enthousiasment celles et ceux qui jusque-là n'avaient pas droit au chapitre. Pour la première fois, les burkinabés ont le sentiment d'être pris en compte, de pouvoir décider pour eux-mêmes. En tant que CDR, membre du comité de défense de la révolution, Seydou en fait l'expérience avec Germaine Pitrohipa.
Le plus souvent, les travaux d'intérêt commun se passent le samedi et le dimanche. C'est pas tout le temps parce que ceux qui étaient parmi nous, il y avait des travailleurs. Par exemple, moi, je travaillais. Mais le samedi matin, au plus tard à 8 heures, tout le monde doit être au commissariat. En fait, elle nous confiait des chantiers. Quand elle est venue, elle a commencé rapidement par des chantiers. Elle ne passait pas trop de temps dans le bureau. Elle était tout le temps dehors, tout le temps sur le chantier. Et je vous donne un exemple. La première fois que moi j'ai déchargé du ciment, c'est avec Germaine Pitrapa. Nous sommes arrivés le matin, on trouve un grand camion garé dans sa cour, plein de ciment. Mais moi, je croyais qu'elle allait nous dire, bon, trouvez-nous des manœuvres, on va déposer le ciment parce que. Non, elle rentre, elle se met un survêtement, elle met un t-shirt, pap, elle commence avec l'apprenti du chauffeur. Allez, elle commence à déposer le ciment. J'ai dit à mon collègue, j'ai dit, mais c'est dur, aujourd'hui, nous allons avoir des problèmes. Comment on fait? On va au travail aussi. Et c'est en ce moment que moi, j'ai commencé à déposer les sacs de ciment aussi, comme elle. On a appris à faire des briques. On a appris beaucoup de choses avec Germaine quand même. Et puis, au fur et à mesure qu'on était habitué, il y avait l'enthousiasme. Vous étiez même souvent pressé d'aller au commissariat pour voir qu'est-ce que cette dame nous réserve comme surprise encore aujourd'hui. C'était devenu l'ambiance parfaite, quoi. C'est des camarades, de vrais camarades.
J'allais sur les chantiers pour encourager les populations et mettre la main à la pâte, comme on dit. Et cela mobilisait les populations autant que les CDR. Les CDR, quand ils arrivaient et qu'ils trouvaient que moi, je mettais la main à la pâte en tenant la pelle, en ramassant les briques ou bien en déchargeant les sacs de ciment, ils considéraient que bon, c'était de leur devoir de m'épargner ce travail pénible. Mais bon, c'était ma conception à moi de donner l'exemple par le haut. Donc j'ai le style personnel de Thomas Sankara qui lui aussi allait sur les chantiers et mettait la main à la pâte. Et ça galvanisait les populations qui se trouvaient sur le chantier et ça permettait de montrer que bon, le CNR, donc Thomas Sankara, la révolution est venue non pas pour donner des directives uniquement, mais participer à la construction avec la population de ces projets que nous initions au cours de cette révolution.
L'approvisionnement doit être rapide. Maintenant, il faut penser à la toiture.
Voilà, déjà.
Faut déjà penser à la toiture. Vaut mieux qu'ils aient leurs matériaux ici.
Oh. Bon, n'oubliez pas de créer beaucoup d'espace vert. Oui. Surtout le long de la route, là. Oh. Beaucoup d'espace vert, des fleurs, des petits bancs. Oh. Des bancs publics.
Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va durer longtemps?
Au début, ce n'était que des mots et une adhésion euphorique. Le doute avait commencé à s'installer aujourd'hui. Il est évident que dans ce bâtiment-là, qui se construit petit à petit grâce à l'engagement des populations, ce bâtiment-là est la preuve que la révolution apporte effectivement quelque chose de qualitatif.
La différence avec Thomas Sankara, c'est que je suis une femme et dans la mentalité culturelle de ce pays au Burkina, en majorité Moussi, la femme, ce n'est pas leur tasse de thé, comme on dit, mais la femme n'est pas considérée comme l'égale de l'homme. Mais moi, je montrais qu'il y a des choses que je peux faire. Peut-être que je ne ferai pas à la même cadence, mais il n'y a pas que des choses réservées aux hommes. Venant d'une famille de pauvres, je voyais très bien que dans mon village, déjà à Fada, à côté de mon père et de ma maman, il y a des choses que je peux réaliser et qui n'étaient pas réservées qu'à mes frères. Et donc, bon, j'ai essayé de le transposer lorsque je suis arrivé ici en tant que haut commissaire. Je ne donnais pas l'exemple rien que pour donner l'exemple, parce que ça fait partie de ma façon de voir comment une femme peut se comporter sans demander l'égalitarisme entre l'homme et la femme. La physiologie, le monde qu'on n'est pas égaux, mais il y a des choses que nous pouvons réaliser au même titre que les hommes et nos capacités intellectuelles, nous devons l'utiliser à ça. Et non pas revendiquer systématiquement l'égalitarisme. Ce n'est pas défier l'homme pour défier l'homme, c'est démontrer notre capacité à faire comme eux.
Les objectifs de Germaine Pitrouipa sont définis par le PPD, le Plan Populaire de Développement. Autosuffisance alimentaire, santé, éducation, émancipation des femmes et aussi le logement en sont les priorités martelées par Thomas Sankara.
En vous mettant en travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bannir de vos rangs les paresseux. Il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes, ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons pour les élections futures. Tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. Il faut bannir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur les chantiers.
Une des innovations que j'ai eu à faire en tant que haut-commissaire, j'ai essayé de décentraliser les projets qui étaient prévus pour les chefs-lieux de province. Koupéla comprenant 9 départements, par exemple l'érection de 20 villas à Koupéla a été décentralisée. J'ai permis qu'il y ait 2 villas par département et que les 4 qui restaient
pour le chef-lieu. Parce que pour moi, il fallait rapprocher les travaux du PPD à la population, qu'elle se sente, elle aussi, concernée par la réalisation du PPD. Donc, en décentralisant la population des environs, des autres départements, ont apprécié parce que, effectivement, ça montrait que la révolution travaillait pour tous et ne privilégiait pas une population contre une autre.
Sur les lieux mêmes du Haut Commissariat, le retour de Germaine Pitruipa suscite le témoignage spontané d'un ancien pionnier. Prénommé Thomas par ses parents, il a participé au mouvement national de la jeunesse révolutionnaire.
Les pionniers, on avait chaque fois les poings fermés, levés, pour affirmer avec force que nous allons effectivement entreprendre la lutte pour pouvoir vaincre l'ensemble des défis qui s'opposent au peuple burkinabé. Donc, pour aller au niveau des rassemblements, chacun devrait porter sa tenue. Une culotte, une chemise, couleur kaki, et aussi un bonnet rouge qu'on incline un peu. Très souvent, en tout cas, pour haranguer les foules, voilà, on commençait d'abord par dire les slogans de la révolution. La patrie ou la mort, nous nous disons tout simplement, nous vaincrons. Voilà. Oser lutter, nous nous disons savoir vaincre. L'hymne national qu'on chantait aussi en moré, en langue nationale, voilà, pour qu'on sache effectivement ce qu'il y a dedans. Et le contenu aujourd'hui, même quand on le regarde, c'est très très fort. Burkimba, pindin kisiga worbo, la yande, aleyum tusri, ob kisiga farbas nwa, lu aleyum kobora, nwa ne yimdo. Ça veut dire en français. Contre la férule humiliante, il y a déjà mille ans, la rapacité venue de loin, des heures servies, il y a cent ans. Donc ça nous montre, depuis l'époque de la colonisation jusqu'à aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la période des indépendances. C'est pour dire que aujourd'hui, nous sommes effectivement indépendants, il n'y a plus de colonisation et donc notre avenir là, c'est entre nos mains. Donc c'est-à-dire que nous devons nous battre ensemble et collectivement nous devons entreprendre un certain nombre d'actions qui vont dans le développement des communautés. Voilà.
L'engagement patriotique inculqué dès le plus jeune âge aux pionniers de la Révolution rappelle à Germaine Pitruipa ses propres sacrifices. Tandis qu'elle se bat à Coupella en tant que haut-commissaire, son mari se bat à Paris pour élever seul leurs enfants. Germaine Pitruipa en appelle à sa mère.
Je fais venir ma maman parce que ma maman, à côté de moi, je me sentais plus forte. M'étant éloignée d'elle depuis l'enfance, j'en avais besoin parce que c'est le pilier sur lequel toutes les familles s'appuient.
Qu'est-ce qu'elle en pensait, votre mère, justement de votre investissement, de votre nomination par Thomas Sankara comme haut-commissaire?
Ma maman considérait que c'était quand même un peu osé de sa part de me confier une province qui auparavant n'existait pas et que je devrais venir administrer. Quand on connaît l'état d'esprit de la culture, aussi bien moi aussi que Gourmaché, la femme, ce n'est pas celle qui doit diriger les hommes. Par conséquent, elle a considéré que c'était un défi trop énorme pour mes épaules. Malgré tout, elle éprouvait une certaine fierté. Donc elle pense que si Thomas Sankara m'a confié cette tâche, je pouvais le réaliser.
Permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabé. En retour, nous donnons en partage à tous les pays l'expérience positive que nous entreprenons avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil d'État et de la vie sociale au Burkina Faso.
Pour nous les femmes au Burkina, on a considéré que Thomas était le président des femmes parce qu'il mettait la femme au centre de toutes ses préoccupations. Et ce n'était pas fin. Il me disait, vous méritez mon respect que je ne peux vous exprimer autrement que par vous responsabiliser pour que ce sacrifice de 9 mois, c'est-à-dire la grossesse, ne vous empêche en rien d'être des actrices d'un développement que nous réalisons, ce que la révolution voulait pour ce peuple burkinabé.
Sankara, président des femmes, c'est à suivre la semaine prochaine dans La Marche du Monde, réalisée par Cécile Pompéani et enregistrée au Burkina Faso quelques jours avant la crise et la fermeture des frontières. Merci pour vos nombreux messages sur le Facebook de La Marche du Monde. Écrivez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.